إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخوتي في الله والأخوات, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحمد الله سبحانه وتعالى ما زلنا نقرأ شرح كتاب الأدب المفرد لأمير المؤمنين في الحديث الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ محمد رسلان حفظه الله تعالى. ووصلنا إلى باب جديد حيث قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا سرق العبد. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سرق المملوك بيعه ولو بنش. قال أبو عبد الله: النش 20 والنواة 5 والأوقية 40. طيب, هذا الحديث إسناده ضعيف, فيه عمر ابن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف, ليس بالقوي, لينه غير واحد. وأخرجه الحديث أيضا أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. Donc, on poursuit inshallah ta'ala notre étude du livre Al-Adab al-Mufrad de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. On est arrivé au chapitre numéro 86 intitulé chapitre quand l'esclave a commis un vol. Quand l'esclave a commis un vol. Taïeb. Ou si l'esclave a commis un vol. Il dit le Bukhari, rahimahullah ta'ala, Musaddad nous a rapporté. Donc ici c'est Musaddad ibn Musarhad, rahimahullah. Et a dit, Abu Awana nous a rapporté, selon Umar ibn Abi Salama, selon son père, selon Abi Hurayrata radiyallahu anhu, qui a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand l'esclave a commis un vol, vends-le, ne serait-ce que d'un nash, ne serait-ce que d'un nash, ou pour un nash. Il dit à Abu Abdullah, qu'est-ce que c'est un nash? Il dit c'est 20, c'est-à-dire 20 dirhams. 20 dirhams. D'accord? Donc un dirham c'est quoi? C'est un morceau d'argent. Hein? Le métal, l'argent. Métal précieux. Alors que an-nawat c'est 5 dirhams. Et al-uqiyya c'est 40 dirhams. D'accord? Donc ici, an-nash on a dit c'est 20 dirhams. Il dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'esclave a commis un vol, vends-le, ne serait-ce que pour 20 dirhams. Taïe. À savoir que ce hadith, sa chaîne de transmission est faible. Car il comporte, ou elle comporte, un certain Omar ibn Abi Salama, ibn Abdurrahman ibn Auf, qui ne fait pas partie des rapporteurs fiables et dont le rapport ou ce qu'il rapporte est fort. Donc il est considéré comme étant un rapporteur qui est faible par plusieurs muhaddithin. Fort au niveau de sa transmission du hadith. Au niveau de sa transmission du hadith, on ne parle pas de force physique, hein. On parle de notamment sa mémorisation, par exemple, d'accord, la précision dans son, dans sa transmission du hadith, et d'autres encore parmi les conditions d'acceptation du hadith. Même si ce hadith a été rapporté également par d'autres, tels que l'imam Ahmed, Abu Daoud, An-Nasa'i et Ibn Majah, rahimahumullah. Rijal al-Isnad minhum Umar ibn Abi Salama ibn Abd al-Rahman ibn Auf layyanahu ghayru wahidin. Donc encore une fois, on a Umar ibn Abi Salama ibn Abd al-Rahman ibn Auf qui donc fait partie des rapporteurs qui sont faibles. معاني الكلمات النش قلنا 20 درهما والأوقية 40 إذن النش نصف أوقية. Donc on a dit tout à l'heure النش c'est 20 درهم alors que الأوقية c'est 40 درهم. Par conséquent النش c'est la moitié d'un أوقية. النش c'est la moitié de une ouqiyya. طيب. ما يؤخذ من هذا الحديث اولا جواز بيع العبد السارق سواء كان المسروق قليلا ام كان كثيرا مع بيان حاله عند بيعه فلا بد من بيان حاله للمشتري. Donc on tire de ce hadith, premièrement, la permission de vendre un esclave qui a commis un vol. Que la chose qui ait été volée ait une valeur minime ou une grande valeur. Mais bien sûr, en exposant son cas à l'acheteur lors de la vente. Donc il est obligatoire que le vendeur expose le cas de cet esclave à l'acheteur. من طبيعة الإنسان أن يصلح ويتغير بتغير المكان فيمكن أن يكون المشتري قادرا على إصلاح حاله لأن الإنسان ربما قال هذا يشكل علي. قد يقول قائل ولكننا بهذا نكون قد أسأنا لمن اشتراه فنحن نريد أن نتلخص أن نتخلص عفوا نريد أن نتخلص منه فحينئذ يبتلى به غيرنا من المسلمين فنقول إن المشتري قد يكون أقدر على إصلاحه ممن باعه لأن البائع ربما يكون ضعيفا في شخصيته لا قوة له في روحه ونفسه فحينئذ فمن أمن العقوبة أساء الأدب. طيب كما يقال فمن أمن العقوبة أساء الأدب. وأما إذا كان عند حاسم فربما أصلح الله تعالى به حاله فلا تستشكلن. طيب. Puis il finit le Cheikh Raslan Hafidhahullah Ta'ala en disant, fait partie de la nature de l'être humain eh bien, le fait qu'il se corrige, se réforme et change en fonction du changement de l'endroit où il se trouve. Donc il est possible que l'acheteur, qui deviendra donc son nouveau maître, soit capable de le réformer, de réformer son comportement, son attitude. Car l'être humain, peut-être qu'il se dit, cela est un problème pour moi. Il se peut que quelqu'un dise, notamment, mais en faisant cela, en vendant un esclave qui a commis un vol, donc qui désobéit à Allah tabarak wa ta'ala à ce niveau-là, eh bien on aura été malveillant envers l'acheteur. Nous on veut s'en débarrasser, mais par conséquent, par notre cause, d'autres parmi les musulmans seront éprouvés par cette personne qui commet certaines désobéissances graves à Allah tabarak wa ta'ala, telles que le vol. Nous disons à cela que l'acheteur, il se peut qu'il soit capable de le réformer encore une fois, et qu'il soit yani, plus apte à rectifier le comportement de cet esclave, plus que l'ancien propriétaire ou l'ancien maître, celui qui a vendu cet esclave-là. Car il se peut que l'ancien maître, donc le vendeur, était quelqu'un qui avait une faible personnalité, qui n'avait pas de force au niveau de l'intellect, au niveau de son être. Et comme on dit, celui qui est à l'abri de la punition va abuser. Hein? Comme on dit, فَمَنْ أَمِنَ الْعُقُوبَ أَسَاءَ الْأَدَبِ. Celui qui se sent à l'abri de la punition, il va abuser. Il va adopter un mauvais comportement et une mauvaise conduite. Quant à l'esclave qui sera auprès d'un maître qui est ferme, qui est déterminé, eh bien il se peut qu'Allah tabarak wa ta'ala réforme par sa cause sa situation et son comportement. Et dans ce cas-là, cet esclave-là ne posera pas de problème bi'idhnillahi azza wa jal. طيب ننتقل إلى الباب التالي. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الخادم يذنب. حدثنا أحمد بن محمد حدثنا داود بن عبد الرحمن قال سمعت إسماعيل عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودفع الراعي في المراح سخلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحسبن ولم يقل لا تحسبن إن لنا غنما مئة لا نريد أن تزيد فإذا جاء الراعي بسخلة ذبحنا مكانها شاة فكان فيما قال لا تضرب ضعينتك كضربك أمتك وإذا استنشقت فبالغ إلا أن تكون صائما. هذا الحديث حديث صحيح أخرجه أيضا أحمد وأبو داود وابن ماجة وابن حبان معذرة ابن حبان والحاكم. Donc on passe au chapitre suivant, le numéro 87, intitulé « Le serviteur commet un péché ». Al-Khadimu yudhni. Concernant donc l'esclave ou le serviteur qui commet un péché. Taïeb. Il dit al-Bukhari, rahimahullah, Ahmed ibn Muhammad nous a rapporté que Daoud ibn Abd al-Rahman nous a rapporté et a dit, j'ai entendu Ismaïl, selon Asim ibn al-Aqid ibn Sabira, selon son père, qui a dit, je suis arrivé auprès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et le berger amena ou poussa dans l'enclos ou dans l'étable une sakhla. Donc sakhla, c'est un nouveau-né chez les moutons ou chez les chèvres. Sakhla, c'est un nouveau-né chez les moutons ou chez les chèvres. Taïb. Donc il poussa ce nouveau-né dans l'enclos. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors, ne crois pas ou ne pense pas. Et il n'a pas dit la tasabanna. Taïb. Ne pense pas. Inna lana ghanaman mi'atan. Yani, ne pense pas ce que tu es en train de penser. Taïb. On va expliquer, inshallah, ne vous inquiétez pas. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous avons 100 bêtes et nous ne voulons pas en avoir plus. Donc lorsque le berger est arrivé avec ce nouveau-né, nous avons donc égorgé un mouton ou une chèvre à sa place. C'est-à-dire que ce nouveau-né-là, donc, additionné aux 100 bêtes qu'il avait, ça faisait 101 bêtes. Donc pour en garder seulement 100, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris un mouton ou une chèvre et ils l'ont sacrifié. Naam. Et parmi les choses qu'il a, les paroles qu'il a dites aux compagnons ici, Laqit ibn Sabira, Tayyib, il lui a dit, ne frappe pas ton épouse comme tu frappes ton esclave. Et lorsque tu fais ce qu'on appelle al-istinshaq, insiste bien dessus. Insiste fortement lorsque tu fais al-istinshaq. On va expliquer c'est quoi al-istinshaq pour ceux qui ne savent pas, inshallah. Sauf si tu es en état de jeûne. Donc ce hadith, comme on a dit en arabe, c'est un hadith qui est authentique et également rapporté par l'imam Ahmed, Abu Dawood, Ibn Hibban et Al-Hakim. Rijalu al-Isnad, Ahmed ibn Muhammad, huwa ibn al-Walid al-Azraqi, wa huwa thiqa. Donc parmi les rapporteurs de ce hadith, on a Ahmed ibn Muhammad, de qui al-Bukhari a pris ce hadith, qui est Ibn al-Walid al-Azraqi, qui fait partie des rapporteurs fiables de hadith. Minhum Dawood ibn Abdurrahman al-Attar ibn Sulayman. Al-Attar Abu Sulayman, afwan. Al-Attar Abu Sulayman, Ismail ibn Kathir, wa huwa Abu Hashim, wa huwa Thiqa. Parmi eux, on a Dawood ibn Abdurrahman, on a aussi Ismail ibn Kathir, Abu Hashim. On ne peut pas confondre avec Ibn Kathir, sahib al-Tafsir, hein, celui qui a écrit le Tafsir Ibn Kathir. Ici, bien sûr, ce n'est pas de lui dont on parle ici, Ismaïl ibn Kathir. Bien qu'il porte, donc du coup, le même prénom qui est Ismaïl, donc qui est le prénom également de Ibn Kathir, celui qui a fait le tafsir, hein, très connu. Et en plus, il s'appelle aussi Ibn Kathir, le fils de Kathir. Taïeb, ils n'ont pas, par contre, la même kunya. Donc ici, sa kunya, c'est Abu Hashim. Alors que la kunya de Ibn Kathir, celui qui a fait le tafsir, c'est Abu al-Fida, rahimahumullah. Il y en a également Asim Ibn al-Aqid, également qui est un rapporteur fiable. Al-an, nadkhulu fi ma'ani al-kalimat, inshallah. Al-murahu bid-dham mawdi'un taruhu ilayhi al-mashiya lita'wiya ilayhi Laylan. Lita'ouya ilayhi Laylan. Donc déjà, par rapport au terme al-murah, donc j'ai traduit par l'enclos ou la bergerie, c'est mieux la bergerie. Taïeb. Pourquoi? Parce que al-murah avec donc la dhamma sur le mim, al-murahu, c'est l'endroit où vont se rendre les bêtes, yani le soir, pour y passer la nuit. Voyez? Donc on appellera ça la bergerie ou l'étable. Voyez? ثم كلمة سخلة ولد الشاة. السخلة هي ولد الشاة. ما كان من المعز والضأن ذكرا كان أو أنثى ساعة يولد. Donc السخلة comme on l'a dit, c'est l'enfant du mouton ou de la chèvre. L'enfant يعني de la brebis ou de la chèvre. طيب. Que cet enfant-là soit un mâle ou une femelle. Donc au moment où il est né, on l'appelle Sakhla. Inna lana ghanaman. Hada qawlun lin nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Qal inna lana ghanaman mi'a la nuridu an tazid. Nuridu an tabqa ala hadha al-adad ay mi'a min ghayri ziyada. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith, nous possédons certes 100 bêtes et nous ne voulons pas qu'il n'y en ait plus. D'accord ? Nous voulons rester à cette quantité-là qui est 100 et on ne veut pas que cela excède ce chiffre ou ce nombre. وقال لا تضرب ضعينتك كضربك أمتك. هذا هو الشاهد. والأمة أي أمتك الأمة هي المرأة المملوكة وهي خلاف الحرة. Donc il dit le prophète ici sallallahu alayhi wa sallam, donc à cet homme Laqit ibn Sabira, il lui dit: ne frappe pas ton épouse comme tu le ferais avec ton esclave. D'accord? Donc là, cette phrase là c'est celle qui a un rapport avec le chapitre qu'on est en train d'étudier. Donc, Al-Ama, c'est quoi Al-Ama? Eh bien, c'est la femme esclave. C'est la femme esclave, donc, contrairement à celle qui est libre, Al-Hurra. La tadrib dhu'inatak. Al-dhu'ina, c'est Al-Mar'a. Summiyat Al-Mar'a dhu'ina, li'annaha tad'anu ma'a al-zawj, ou tad'anu ila bayti al-zawj min bayti abiha, wa dhu'anu. Donc, lorsqu'il ne frappe pas Dha'ina taka, Dha'ina ici, c'est la femme. Donc, pourquoi la femme a été appelée ici par le prophète alayhi salatu wassalam Dha'ina? Il dit parce que elle voyage avec son épouse. Pourquoi? Parce que Dha'anu avec un Dha, ça veut dire le voyage ou le déplacement ou le déménagement. D'accord? Donc, elle voyage, elle bouge, elle se déplace avec son épouse, ou alors le fait que elle ait quitté le foyer de son père pour se rendre dans la maison de son mari. D'accord? Donc, Dha'ina ici, c'est la femme, l'épouse. Aïna'am. Thumma qala al-shaykh Raslan, hafidhahullahu ta'ala, يفهم من سياق الواقعة أن النبي صلى الله عليه وسلم أجابهم بقوله لا تحسبن عندما سمع اعتذارهم بعد أمره بالذبح لما أمر بأن يذبح لهم وهم أرادوا الاعتذار بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا البيان العظيم فقال لهم لا تحسبن إنا من أجلك ذبحناها. طيب. Donc, on comprend dans le contexte de cette anecdote du récit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit « La tahsibanna »« La tahsibanna » »« Ne crois pas » Taïeb ?« Ne crois pas quoi ?» Eh bien, lorsque il a dit au berger d'égorger une bête, eh bien, ils ont fait part du fait qu'ils ne voulaient pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sacrifie une bête pour eux, hein, pour qu'ils puissent manger. Donc, ils ont cru, en fait, au départ que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait égorger une bête pour leur donner à manger par hospitalité, etc., etc., alors qu'ils avaient déjà bien mangé juste avant ça, juste avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'arrive. Donc ils ont cru que le prophète alayhi salatu wassalam voulait sacrifier une bête pour offrir donc un repas copieux à ses invités. Donc lorsqu'ils ont fait part donc de leurs excuses du fait qu'ils ne voulaient pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fasse cela pour eux, le prophète il leur a dit en fait que ce n'était pas pour eux, d'accord? Donc il leur a clarifié l'affaire et leur a dit ne croyez pas ou ne crois pas, c'est-à-dire ne crois pas que c'est pour toi que nous allons sacrifier cette bête-là. Et puis il leur a dit la raison réelle de sa volonté de sacrifier une bête. Donc c'est quoi cette raison? Elle ma'na anna lahum mi'atan min al-ghanam. Lahum mi'a. Mi'a min al-ghanam. ولا يريد صلى الله عليه وسلم أن يزيد العدد عن هذا فكلما دفعت واحدة سخلة ذبح مكانها شاة لأن العدد هكذا يزيد واحدة إن لم يذبح فلما دفع الراعي في المراح المكان الذي تبيت فيه الماشية ليلى سخلة أمره بأن يذبح مكان السخلة شاة فيبقى العدد على ما هو ولكنه بين صلى الله عليه وسلم. Donc la raison, la vraie raison pour laquelle le prophète il a voulu sacrifier, il a sacrifié cette bête, c'est qui, comme on a dit, ils avaient 100 bêtes et ils ne voulaient pas qu'ils aient plus que 100 bêtes, d'accord, que la quantité des bêtes dépasse la quantité de la centaine. Donc à chaque fois qu'une bête donnait naissance à un bébé, qu'est-ce qu'il faisait? Il sacrifiait une bête pour rester à 100. Hein? Non. Parce que s'il ne sacrifiait pas une bête, eh bien, à chaque fois le nombre augmenterait, 101, 102, 103. Il ne voulait pas, Yannick, que cela augmente, il voulait rester à 100. Donc lorsque ce berger a amené donc les bêtes, ou plutôt a amené ce nouveau-né dans l'endroit où dorment, où passent la nuit les bêtes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné de sacrifier une bête à la place de ce nouveau-né. C'est-à-dire pour que ce nouveau-né-là prenne la place d'une bête en sacrifiant cette dernière, d'accord, afin que la quantité reste à 100. ففي هذا تعليم للمؤمن أن لا يتشبع بما لم يعطى بل على الإنسان أن يلزم حده وأن لا يزيد عن قدره وأنت تعلم أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وكذلك الإمام أحمد رحمه الله كان شيخ الإسلام قد حضر بين يدي رجل به مس من جن فأخذ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يضربه حتى نطق الجن فقال له الشيخ رحمه الله ما لك وله قال أنا أحبه قال ولا يحبك قال قال له الجن أنا أريد أن أحج معه قال هو لا يريد أن يحج معك وهذا لا يحل لك أخرج فقال أخرج كرامة لك قال لا تخرج طاعة لله تبارك وتعالى وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc ici dans ce hadith on a un enseignement qui est important dans le fait que lorsque les hommes ont cru que le prophète allait leur sacrifier une bête pour leur donner à manger, donc par hospitalité et par bienfaisance, lorsque le prophète il a vu que ces gens-là croyaient ça, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit non. Si je sacrifie la bête, ce n'est pas pour ça. C'est pour pas qu'on ait plus de 100 bêtes. Vous voyez? Dans ce comportement-là du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on a un enseignement qui est que le croyant ne doit pas montrer en apparence une chose qu'on ne lui a pas donnée. Au contraire, il doit s'en tenir à ce qu'il est et à sa limite. Et de ne pas montrer quelque chose en plus que ce qu'il a. Vous voyez, il doit rester à sa place. Naam. Il dit le cheikh, un exemple. Cheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, ainsi que Ahmed, l'imam Ahmed. Un jour, Cheikh Islam rahimahullah, un homme est venu en face de lui et il était possédé par un djinn. Wal'iyadu billah. Il était possédé par un djinn. Donc, Cheikh Islam, rahimahullah, il a commencé à le frapper. Jusqu'à ce que le djinn parla. Le djinn, il a commencé à parler, donc, dans le corps de la personne qui l'avait possédé. Cheikh Islam, il lui dit au djinn, « Malaka wala, qu'est-ce que toi tu as et qu'est-ce que lui il a ?» Et le djinn, il a dit, « Je l'aime. J'aime la personne dans laquelle il était. » Cheikh Islam, il lui dit, « Mais lui, il ne t'aime pas. Lui, il ne t'aime pas. » Le djinn, il a répondu, « Je veux faire le pèlerinage avec lui. Je veux faire le pèlerinage avec lui. » Cheikh Islam, il dit, « Mais lui, il ne veut pas faire le pèlerinage avec toi. » Et cela n'était pas permis. Sors de ce corps. Sors. Et là, le djinn, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, « Je vais sortir par honneur pour toi. » Je vais sortir par honneur pour toi. C'était Cheikh Islam. Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala. Donc le djinn, malgré la désobéissance qu'il a fait, il a reconnu la valeur de Cheikh Islam. Rahimahullah ta'ala. Donc il avait un certain respect pour Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala. Imaginez. Il a dit, je vais sortir par honneur pour toi. Qu'est-ce qu'il a dit, Cheikh Islam? Non. Tu dois sortir par obéissance à Allah. Et tu dois sortir par obéissance pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Regardez ici, Cheikh Islam, il a corrigé direct. Il a rectifié. Il n'a pas laissé dire cette chose-là. Parce que le djinn devait faire cette chose pour Allah, pas pour lui, pas pour Cheikh Islam. Pour Allah tabarak wa ta'ala. Donc ça, ça nous montre que la personne doit rester à sa place. Et elle doit pas faire croire ou faire penser aux gens une chose qu'elle ne mérite pas. Vous voyez ? فالإنسان لا ينبغي أن ينزل نفسه فوق منزلتها على الإنسان أن ينزل نفسه منزلتها فإذا فعل ذلك رفعه الله تبارك وتعالى. Donc l'être humain, il n'a pas à se mettre à un niveau où il n'est pas. Au contraire, il doit rester à sa place, il doit connaître sa valeur et il doit ne pas dépasser le rang qu'il mérite réellement. Ne pas faire croire aux gens qu'il est à un niveau supérieur au sien. Voyez ? Donc s'il reste à sa place, sache que Allah tabaraka wa ta'ala, il va l'élever. قوله صلى الله عليه وسلم إن لنا غنما يوضح سبب ذبح شات له. Donc lorsqu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a 100 bêtes et on ne veut pas que cela dépasse 100, donc là c'est pour justifier et pour dévoiler la raison pour laquelle il voulait sacrifier cette bête. Alhamdulillah. ثم قال ما يؤخذ من الحديث ما يؤخذ من الحديث اولا في الحديث إيماء لطيف إلى الأمر بالضرب للمرأة بعد عدم قبول الوعظ لكن يكون ضربا غير مبرح وهذا كما تعلم ينافي ما ينادي به النسوة وأشباه النسوة من الرجال في هذا العصر يقولون الضرب وحشية مع أن الله تعالى قد نص عليه في القرآن المجيد ولكنه ضرب لا كضرب يعني الأمة فإذا التزم أمر الله تبارك وتعالى وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم استقامت الأمور. وأنت تعلم أن الناس لو أطاعوا الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا ما وجد في الدنيا شر قط، وإنما يوجد الشر في المكان على قدر مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوجد الخير في المكان على قدر طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك تجد الأمكنة التي فيها نور السنة، وفيها الإقبال على حلق العلم، وفيها تعليم منهاج النبوة، تجد هذه الأمكنة فيها من الخير ما لا يوجد فيما لا يوصف من الأمكنة بمثل هذه الأوصاف. Qu'est-ce qu'on tire de ce hadith ? Premièrement, ce hadith comporte une indication subtile sur la permission de frapper la femme. Hein? Après, bien sûr, de l'avoir exhorté, de l'avoir conseillé, d'être passé par plusieurs étapes que les gens de science ont mentionnées, taillées. Et si malgré tout ça, cela ne porte pas ses fruits, il est permis d'avoir recours à cela. Il faut savoir qu'il y a des conditions et que cet acte doit être conditionné par des critères très stricts. Et comme on dit le ulama, c'est une forme de correction qui est similaire à celle que l'on donne des fois aux enfants qui n'ont pas encore atteint l'âge de la puberté. Hein? Donc, lorsque tu vas leur donner une petite fessée ou une petite tape pour les éduquer, eh bien, il y a une certaine similarité entre ces deux choses. Donc, il ne faut pas que ces coups soient des coups qui sont violents. Ce n'est pas des coups violents qui sont faits pour faire mal ou pour blesser. طيب نعم donc et cela donc il faut savoir que c'est légiféré contrairement à ce que crient les féministes parmi les femmes ou même ceux qui les hommes qui ressemblent aux femmes dans ce cas-là qui crient sur les toits à notre époque qui disent que le fait de frapper la femme c'est une sauvagerie. Alors que Allah tabarak wa ta'ala, il a cité textuellement dans le Coran al-Karim cela. Mais attention, ce n'est pas le fait de corriger la femme n'est pas similaire au fait de corriger comme par exemple un esclave ou une esclave. Hein? Tu vas pas faire te servir de ta femme comme d'un punching ball. Voyez, là, cela est contraire et n'est pas légiféré. C'est contraire à la législation d'Allah tabarak wa ta'ala. Aïna'am. Donc il faut savoir que lorsque les commandements d'Allah tabarak wa ta'ala seront tous respectés, les commandements du messager sallallahu alayhi wa sallam seront tous respectés, en vérité, toutes les choses seront saines et faciles. Les gens, s'ils obéissaient tous au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, de manière apparente ou inapparente, tu ne verrais sur terre aucun mal. Donc le mal, pourquoi on le trouve dans certains endroits ? Eh bien c'est à cause des désobéissances et à cause des infractions au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc le mal que tu vas trouver dans certains endroits, il sera proportionnel en vérité à la désobéissance au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et de l'autre côté, tu verras le bien dans certains endroits proportionnellement également à l'obéissance au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que tu vois dans certains endroits, certaines villes, certains quartiers, certains pays même, la lumière de la sunna. Tu vois les gens qui sont avides de cercles de science, qui recherchent les enseignements de la méthodologie prophétique. Donc, il est évident que dans ces endroits-là où les gens recherchent les assises de science, ont faim de science, ont faim de la lumière de la sunna, il est évident que tu y verras un grand bien. Un bien que tu ne trouveras nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Naam. Ala kulli hal, qala shaykh, عندما يصير الرجال رجالا سيصيرن النساء نساء فالعلة ليست في المرأة لقد قال ابن حزم رحمه الله إن المرأة العفيفة ليست هي التي تنكف من نفسها ولكنها هي التي إذا كفت انكفت. طيب يديك وكيل en soi quand les hommes deviendront des hommes, les femmes deviendront des femmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire lorsque les hommes deviendront de vrais hommes, les femmes deviendront de vraies femmes. C'est-à-dire quand les hommes respecteront les ordres d'Allah tabarak wa ta'ala et mettront en pratique ses prescriptions ainsi que celle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, notamment avec, vis-à-vis des femmes, etc., les femmes deviendront elles aussi de vraies femmes. Vous voyez? Donc la, il dit la cause ne vient pas de la femme. Il dit Ibn Hazm, rahimahullah ta'ala, que la femme chaste, la femme qui est chaste, ça veut dire quoi chaste? Non, c'est-à-dire celle qui ne commet pas la fornication, qui préserve sa chasteté, qui préserve ses parties, qui se voile, qui se cache aux yeux des étrangers, etc. Parmi les hommes, il dit la femme chaste, ce n'est pas celle qui s'abstient de commettre la turpitude, de commettre la débauche, etc. Ce n'est pas elle la femme chaste. Il dit la femme chaste, c'est celle avec qui on sera chaste, que lorsqu'on est chaste avec elle, elle est chaste. C'est ça la femme qui est afifa. La femme afifa, c'est celle lorsque l'on va éviter de commettre la débauche avec elle, elle ne commettra pas la débauche. Donc si elle commet la débauche, c'est à cause des hommes aussi. C'est à cause des hommes qui vont commettre la débauche avec elle. Donc si les hommes étaient chastes, les femmes seront chastes. D'accord? Si les hommes sont chastes, si les hommes préservent leurs parties intimes et s'éloignent de la fornication, les femmes seront éloignées elles aussi de la fornication. Voyez? Wa ma'a dhalika fa qanun as-salaf, qanun as-salaf في معاملة الزوج أي المرأة هو أن لا تكف الأذى عنها ولكن أن تتحمل الأذى منها ومن صار خلف النبي صلى الله عليه وسلم استقامت حياته فنسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بتمام الاتباع لنبينا صلى الله عليه وسلم. Donc malgré cela, il faut savoir qu'il y a une loi entre guillemets, chez les pieux prédécesseurs, rahimahumullah, dans justement le comportement qu'ils avaient avec l'épouse. Ils disaient qu'il ne fallait pas que... ils disaient, tu ne dois pas yani, préserver ton mal de ta femme, mais tu dois supporter son mal. Où tu dois supporter le mal qui vient d'elle. D'accord? Il disait, ce qui est important, ce n'est pas que tu préserves ta femme de ton mal, mais c'est que tu supportes le mal qui vient d'elle. Que tu sois patient, que tu supportes, hein, et que tu endures son mal. Al-Muhim, l'essentiel, c'est que celui qui chemine derrière le prophète, sur les pas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, toute sa vie sera saine et sa vie sera agréable. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il nous gratifie de la perfection dans le suivi de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Thaniyan, عدم المبالغة في استنشاق الماء في حال الصوم. Deuxième chose que l'on tire de ce hadith, lorsque la personne est en état de jeûne, elle ne doit pas insister ou exagérer dans ce qu'on appelle al-istinshaq. Dans ce qu'on appelle al-istinshaq. Voyez. Donc al-istinshaq, c'est quoi? Al-istinshaq, yani mashru'iyya. وهو المبالغة في الاستنشاق إلا أن تكون صائما فلا تبالغ فالاستنشاق هو جذب الماء في الخيشوم في الأنف ثم دفعه يسمى الاستنثار وهو من السنن وقيل من الواجبات وهو أولى كالاستنشاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا استنشقت فبالغ وفي لفظ آخر وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة والذي ينهى عنه المبالغة لا أصل الاستنشاق ينهى عن المبالغة خوفا من أن يلج الماء إلى البطن فيكون سببا في فطر الإنسان والله أعلم والله أعلم. Donc l'istinshaq c'est quoi? Lorsque dit le prophète صلى الله عليه وسلم, lorsque tu fais l'istinshaq, insiste ou exagère. Donc l'istinshaq c'est quelque chose qui est légiféré. Et c'est quoi l'istinshaq? Eh bien, c'est lorsque tu fais l'wudu, quand tu vas aspirer l'eau avec ton nez. Et tu vas faire rentrer l'eau dans ton nez. On appelle l'istinshaq. Donc ici, le prophète, il lui a dit, lorsque tu fais l'istinshaq, insiste, exagère. D'accord? Sauf si tu es en état de jeûne. Donc si tu jeûnes, n'exagère pas. Taïeb? Donc l'istinshaq, le fait d'aspirer l'eau dans le nez jusqu'à ce que ça atteigne les parois nasales, au fond. Et ça, c'est quand tu exagères. D'accord? On a dit le fait d'exagérer en cela ou d'insister, c'est une sunna. Et après l'istinshaq, tu fais ce qu'on appelle al-istinthar. Al-istinthar, c'est le fait de rejeter l'eau après l'avoir aspirée. Donc tu fais rentrer l'eau et tu rejettes l'eau par le nez ensuite. On appelle ça l'istinfar. Donc l'istinfar, c'est une sunna, mais la parole la plus correcte, c'est que c'est une obligation, comme l'istinshaq. L'istinshaq, c'est une obligation, et bien sûr, l'istinfar également. En vertu de la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque tu fais l'istinshaq, insiste. Et dans une autre version, il dit, insiste dans l'istinshaq, sauf si tu es en état de jeûne. Donc ce qui est interdit lors du jeûne, c'est pas al-istinshaq, c'est le fait d'exagérer et d'insister dans cet acte-là. C'est ça qui est interdit, d'accord? Pourquoi c'est interdit en état de jeûne? Parce que on craint pour la personne qui ferait cela que l'eau traverse et aille jusqu'au ventre, rentre par les cavités nasales et puis atteigne le ventre, ce qui serait une cause de la rupture du jeûne de la personne. Wallahu a'lam. ثالثا وأخيرا في الحديث التعليم للمسلم أن لا يتشبع بما لم يعطى وأن لا يتحلى بما لم يؤت. Troisièmement et dernièrement dans le hadith, comme on a dit, on a cet enseignement pour le musulman qu'il ne doit pas montrer en apparence une chose qu'on ne lui a pas donnée, ou montrer quelque chose de visible qu'il ne possède pas. Il doit rester à sa place, à son niveau, et ne pas se mettre au-dessus du niveau où il se trouve, comme dans l'exemple qu'a donné le Cheikh tout à l'heure avec Cheikh Islam, rahimahullah ta'ala. Tayyib. Alhamdulillah, naktafi bihad al-qadr, insha'Allah. Jazakumullah khayran. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wallahu a'lam. Wa subhanakallah bihamdik. Shadun la ilaha illa an. Staghfiruka wa atubu ilayk.